Comment un petit cuisinier provençal a fait de la cuisine française un art et des chefs des artistes.
Il a passé la cuisine dans une autre ère.
Tout ce que le mot chef évoque aujourd'hui, on le doit en grande partie à Escoffier.
Pour moi, Escoffier reste un modèle et Escoffier reste vivant dans mon approche culinaire.
Auguste Escoffier a consacré sa vie à installer au cœur de l'époque moderne un rêve très français, celui d'une cuisine qui se hisserait au rang des beaux-arts et dont les chefs jouiraient du prestige et de la liberté de création réservée aux grands artistes.
Il a vu ici dans cette maison sa maman et sa grand-mère cuisiner. Et il a eu ses premiers émois de cuisine. Il voulait être sculpteur, mais son père, Maréchal Ferrand, lui a dit « c'est pas un métier, mon fils, tu vas être cuisinier et tu vas aller travailler dans le restaurant de ton oncle à Nice, le restaurant français ». Il avait 13 ans.
Auguste Escoffier est l'inventeur d'un nombre incroyable de plats qui, comme des tableaux, ont traversé le temps. Hormis ses légendaires saveurs, il est l'inventeur du concept de brigade, hérité de son expérience militaire lors de la guerre contre la Prusse, qui permit ainsi de révolutionner l'organisation et l'efficacité des cuisines de grands établissements. Premier chef du Ritz à Paris, concepteur de recettes mythiques comme la crêpe Suzette ou la pêche Melba, Auguste Escoffier s'est attiré pendant toute la fin du 19e siècle et le début du 20e les faveurs de ses pairs, de ses troupes, ainsi que celles des plus grands hommes de son temps. Émile Zola ou encore Marcel Proust furent très sensibles à son sens de la poésie culinaire. Pour ce quatrième épisode de cette mini-série consacrée à la fabuleuse histoire d'Auguste Escoffier et racontée par Fabrice Roy, nous retrouvons Auguste Escoffier au front. Nous sommes en 1870, Prussiens et Français s'affrontent dans des combats terribles. Pourtant, Auguste Escoffier met toute son ingéniosité au service des soldats pour leur donner à manger.
À Metz, il est aux premières loges, Auguste. Il voit la troupe, les officiers, l'inconscience des fuyards qui tirent des lapins avec leurs armes de guerre, mais aussi ce petit soldat blessé qui pleure quand on veut le débarrasser de son fusil au canon tordu. Il voit le courage et la veulerie, la couardise et la bravoure à l'image de ces cuirassiers, criblés de blessures ainsi que leurs chevaux, qui viennent au bivouac se faire panser sommairement et qui repartent au galop après avoir bu un petit verre de cognac en criant « Vive la France !» Auguste déploie des trésors d'imagination pour nourrir décemment l'état-major. Il apprend à prévoir, à économiser, à utiliser chaque gramme de la nourriture dont il dispose, ce dont il n'est pas peu fier. Il écrit « Le déjeuner était presque toujours composé des reliefs du dîner de la veille et certes, je m'élevais alors à des hauteurs inconnues dans l'art d'accommoder les restes qui eussent stupéfié le baron Brice et bon nombre de collègues. » Puis, c'est la capitulation de Metz le 27 octobre 1870. Le maréchal Bazaine livre aux Prussiens, pratiquement sans combattre, près de 200 000 hommes qui seront prisonniers de guerre et parmi eux, le jeune Escoffier. Il est transféré en Rhénanie. Son train s'arrête à Nancy, où pleuvent sur les prisonniers des pierres et des insultes. « À bas les lâches ! Mort à Bazaine ! Vive les Prussiens !» Le lendemain, il est interné à Mayence, en forteresse, avec 250 autres soldats français. Ils dorment sur des paillasses, sans couverture, en grelottant de froid. Pendant 3 jours, aucune distribution de nourriture n'a lieu. Des dragons partagent ce qu'ils ont pu sauver de leur maigre ration. Si l'ordinaire finit par s'améliorer quelque peu, les conditions restent extrêmement précaires. Escoffier écrit à propos de la distribution de la soupe. La sonnerie annonçant l'arrivée de la charrette se fit entendre et les hommes affamés se précipitèrent au-devant d'elle. Il tombait depuis la veille une pluie fine et glacée qui avait défoncé le chemin et encore retardé son arrivée. Aussi, lorsqu'elle fut arrêtée à l'endroit indiqué pour la distribution, les soldats armés qui l'entouraient eurent toutes les peines du monde à empêcher les prisonniers de la prendre d'assaut. Les plus affamés poussaient de véritables hurlements, et la distribution terminée, je vis ces hommes, non rassasiés, se précipiter sur les tonneaux vides pour gratter les parois avec leurs mains et avaler goulûment les quelques vestiges qu'ils pouvaient recueillir. Comment de telles privations, jointes aux souffrances déjà endurées dans Metz et aux fatigues de la campagne, n'auraient-elles pas fait de victimes dans les rangs des prisonniers ? Transféré peu après comme chef de cuisine de l'état-major du maréchal de MacMahon, lui-même prisonnier à Wiesbaden, Auguste voit sa situation s'améliorer. Mais il n'oublie pas pour autant ses anciens compagnons de Mayence, qui continuent de souffrir de la faim et du froid.
Manger vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.
À la veille de Noël, il décide d'aller leur rendre visite avec quelques provisions et des bouteilles de vin local. Son arrivée provoque une quasi-émeute. Il est entouré, acclamé. Les prisonniers lui demandent des nouvelles de leur famille comme s'ils débarquaient de leur village. Il raconte. Le couvert fut vite mis. Ni table, ni chaise. On disposa les mets sur un lit de camp autour duquel chacun s'assit sur ses talons. Une chandelle plantée à la tête du lit éclairait cette petite scène et le dîner fut trouvé en tout point excellent. Pendant que nous fêtions tristement cette veille de Noël, d'autres, plus malheureux encore, couraient par une nuit noire à la lueur des torches et sous une pluie glaciale à l'appel de la sonnerie habituelle qui annonçait l'assaut. Une fois les conditions de la paix conclues, Auguste Escoffier peut rejoindre la France. Arrivé à Paris en pleine guerre civile, il ne cautionne pas la commune et dénonce ces Français, dit-il, perturbateurs de l'ordre, qui assassinent le 18 mars 1871 les généraux Thomas et Lecomte et qui forment des groupes d'otages par décret du 5 avril. Dès le 6 avril, Escoffier réussit à quitter Paris en empruntant le dernier train qui peut partir de la gare du Nord. Il rejoint Versailles, où il sera au service du maréchal de MacMahon jusqu'à la fin de la répression de la commune par l'armée régulière. Son ancien patron du Petit Moulin Rouge, Ulysse Rouault, était resté à Paris et avait rejoint les rangs des communards à la 6e compagnie du 187e bataillon de la garde nationale. Il est fait prisonnier par les Prussiens à la fin de la semaine sanglante, le 27 mai 1871, alors qu'il tentait de s'échapper par la porte Saint-Gervais. Il sera condamné en 1872 à un an de prison par un conseil de guerre, et sa carrière sera ruinée. Auguste Escoffier est à présent cet homme de 25 ans qui se présente aux portes d'une éblouissante carrière avec la maturité de celui qui a traversé nombre d'épreuves et qui va prouver qu'être un chef, dans tous les sens du terme, c'est conjuguer l'exigence, la bienveillance et la lucidité.
On retrouvera Fabrice Roy pour la fabuleuse histoire consacrée à Auguste Escoffier, véritable artiste culinaire, afin de mieux connaître cet homme qui met notamment en évidence le problème du droit d'auteur sur un mets qui possède toutes les caractéristiques d'une création individuelle et volontaire. Il faut savoir que le cuisinier n'a pas de recours contre le plagiat de son œuvre.
Manger vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.